France Inter. La journaliste, romancière et nouvelliste argentine Mariana Enríquez, reine des atmosphères macabres, gothiques, rock et horrifiques, est l'auteur des recueils de nouvelles d'épouvante « Les dangers de fumer au lit » et « Ce que nous avons perdu dans le feu », du roman « Notre part de nuit », de l'essai « La petite sœur » consacré à la nouvelliste argentine Silvina Ocampo et je ne cite pas les nombreux ouvrages qui n'ont pas encore été traduits en français. Son œuvre a été couronnée de nombreux prix comme le Heraldé espagnol en 2019, celui de l'Imaginaire ou encore des Libraires Payot en 2022. Rédactrice en chef adjointe de la section Art et Culture de Radar, le supplément culturel du journal Página 12, elle anime des ateliers littéraires à la Fondation Tomás Eloy Martínez. Son univers est peuplé de fantômes colériques, cadavres en putréfaction animée, créatures monstrueuses, démons et meurtriers. Bercée de légendes urbaines et de croyances populaires, elle dépeint Buenos Aires comme une ville inquiétante, fiévreuse et fantasmagorique. La violence et le désespoir qui transparaissent dans ses récits ont aussi été façonnés par les horreurs de la dictature argentine, dont elle transpose l'arbitraire et la terreur dans des récits occultes, poétiques, nocturnes et oniriques. Les éditions du Sous-sol viennent de publier son recueil de nouvelles « Un lieu ensoleillé pour personnes sombres » dans une traduction d'Anne Plantagenet. 12 nouvelles fabuleuses et cauchemardesques à ne pas lire la nuit, comme j'ai eu la bonne idée de le faire. La traduction de l'entretien sera assurée par Pascal Fougère. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Mariana Enríquez.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
La última cosa que me entusiasmó es la película Los Sudarios,
sí.
The Frauds, de David Cronenberg.
Voilà, no le film The Frauds de David Cronenberg.
Les Lanceurs.
No me parece una gran película, pero me parece
c'est
que lo que hace
un grand film,
bien,
je crois, mais je crois que ce qu'il fait bien, il le fait très très bien, et particulièrement la représentation du corps malade, et j'étais fascinée.
Parce que pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film, il s'agit d'une caméra linceul qu'on peut mettre autour de ses défunts. Donc on les voit se décomposer en direct pendant qu'ils sont enterrés. Voilà. Justement, en parlant de Cronenberg, il y a une de vos nouvelles dans Un lieu ensoleillé pour personnes sombres avec une tumeur qu'on enlève, qu'on remet, qui m'a fait penser à son film précédent, Les Crimes du Futur.
Sí, yo cuando vi la película también pensé en eso.
Alors, había escrito el cuento film, antes. J'ai pensé à ça. J'avais écrit la nouvelle avant.
Pero me al ver la película pensé, bueno, hay
quand
un
j'ai vu le film de Cronenberg, donc je me suis dit qu'il y a une reconstitution en fait, un moment en fait où on peut penser au corps comme quelque chose de fragmenté, quelque chose de malade, quelque chose de mutilé.
Que de alguna manera se parece también a la
qui
a la realidad en partes,
aussi
à ce corps
ressemble
cada vez menos humano,
à la réalité en partie et à ce corps qui est chaque fois moins humain, moins complet,
carne,
une espèce
que,
de nouvelle chair qui
que,
est toujours ce qu'a pensé Cronenberg.
Et
donc voilà, ça me paraît être l'esprit de l'époque.
Alors, j'ai lu que vous viviez aujourd'hui en Tasmanie, en Australie. Et alors moi, la seule chose que je connaisse de la Tasmanie, c'est le diable de Tasmanie. Et j'ai lu que beaucoup d'entre eux avaient une tumeur faciale transmissible par morsure. Et je me suis dit que vous auriez pu l'inventer, ça.
Sí, es bien curioso, además, porque es la causa del
alors,
demonio de Tasmania.
Alors, c'est
un animalito
très curieux, hein, le diable de Tasmanie. C'est un petit marsupilani qui est carnivore.
Que se contagia, es un cancer.
Et c'est un cancer en fait qui est viral hein, et qui se porte donc sur la face de l'animal.
Pero esto ocurre porque en la cadena de
mais c'est quelque
animal,
chose qui se produit parce que dans la chaîne animale, au-dessus du diable de Tasmanie, il y avait le tigre de Tasmanie
que s'extinguió.
Et cet animal a disparu
en los años 30.
Dans les années 30.
Il
y a une vidéo que je vous recommande à voir online où on voit le dernier en fait tigre de et on voit comment il arrivait cet animal à ouvrir sa bouche à 90 degrés. Et quand ce tigre de Tasmanie a disparu, évidemment, il a arrêté de chasser, de tuer les diables de Tasmanie. Mais il n'y a pas non plus de contrôle de cette population des diables. Et à cause de ce manque de contrôle, en fait, de la population des diables, la mutation génétique que produit le cancer est impossible à stopper. Donc c'est une catastrophe animale, qui est plutôt une catastrophe environnementale, en fait, au sens de milieu, et qui vient effectivement de l'extinction provoquée par l'homme de ce tigre de Tasmanie.
Bon, alors là, je voulais parler de rock, mais ça ne va pas être évident. Tant pis, j'assume le fait de ne pas avoir de transition. Toute votre œuvre est traversée par le rock. Vous portez autant des t-shirts des Ramones que des étoiles sataniques. Il est question d'ésotérisme et de rockstar dans votre livre inédit en français « Este es el mar », de serial killer et de rock dans « Ese verano a oscuras ». Et j'ai remarqué que beaucoup de groupes de rock ont tiré leur esthétique du macabre. Pourquoi, à votre avis, ces deux cultures coexistent si bien, le macabre et le rock ?
A mí me fascina la relación del rock y el ocultismo.
Alors moi, je suis très fascinée par la relation du rock et de l'occultisme.
La descubrí, creo, siendo muy
je l'ai découverte en fait quand j'étais très jeune avec les Rolling Stones et Led Zeppelin.
Led Zeppelin tiene un disco.
Led Zeppelin.
Led Zeppelin 4, que son,
son quatrième disque de Zeppelin est absolument culte, hein, formidable.
Et
les Rolling Stones.
Surtout con su forma de vida, ¿no?
Surtout avec la manière dont ils ont vécu au début des années 60.
Et la relation que tenían
avec la relation qu'ils avaient avec le satanisme, avec le cinéaste Kenneth Anger,
etc. Et después con el tiempo la busqué siempre, ¿no?
Et puis ensuite, après avoir découvert cette relation, je l'ai cherché tout le temps. Hein.
Con Aleister Crowley.
C'était le cas de Bowie avec Aleister Crowley.
Kate Bush, clairement une bruja.
Kate Bush avec une sorcière. Il hein, y en a tant d'autres.
Et puis, finalement, dans
les années 1990, avec le black metal, et tout va vers le diable, littéralement.
Et
je lisais sur ces jeunes qui avaient mon âge et qui avaient des groupes de musique qui étaient des assassins, en fait. Et donc, ils brûlaient des églises, ils se tuaient les uns les autres. Et la relation du rock et de l'occultisme, et ceci, ça vaut pour les formes les plus légères, hein, comme Florence and the Machine, ou dans les formes plus ritualisées, avec Psychic TV. Et je crois que ça fait intégralement partie de ce que j'écris, oui.
The Pentagram, dedicated to Henry Farnham. In the year of the primal course, in the dawn of terrestrial birth, man mastered the mammoth and horse, and man was the lord of the earth. He made him an hollow skin from the heart of an holy tree. He compassed the earth therein, and man was the lord of the sea.
Mariana Enriquez, j'avais prévu de le passer un peu plus tard, mais là justement c'est Aleister Crowley qu'on entend, un occultiste britannique. Dans vos nouvelles, vous mettez à chaque fois, au début de chaque nouvelle, des exergues, et il y en a une de l'artiste, poète, actrice et occultiste américaine Marjorie Cameron, qui était adepte de son mouvement ésotérique. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur les deux, les situer pour les auditeurs ?
Si, voy a empezar por ella.
Je vais commencer par elle, en fait.
Marjorie Cameron era una occultista y brujana. C'était
une occultiste et une sorcière, en fait. américaine du Nord,
et
qui est tombée amoureuse d'un ingénieur de fusée. C'était quelqu'un qui était à la NASA. Alors, comment il s'appelait? Jack, quelque chose. Et lui est mort, en fait, lors d'une expérience dans son laboratoire. Tous les deux appartenaient à l'église de Téléma, qui était l'église qu'avait fondée l'occultiste britannique Aleister Crowley. Après s'être séparé de la première organisation occultiste à laquelle il appartenait, les Magos d'Endon. Et il y avait là Bram Stoker, l'auteur de Dracula, William Yeats, le poète et prix Nobel irlandais, Yeats. Arthur Machen, c'était une organisation occultiste très très importante, et il y avait aussi beaucoup de femmes dans cette organisation. Marjorie Cameron et son mari appartenaient à cette organisation, mais aux États-Unis où ils étaient. Et elle était une sorcière qui exerçait, et c'était aussi une plasticienne.
Quand son mari
est mort.
Évidemment, cela l'a vraiment
déstabilisée, mais elle a fait ce que fait une sorcière.
Elle
est allée dans le désert de Californie, où il vivait, et elle a essayé de conjurer l'esprit de son mari pour avoir de nouveau avec lui une relation sexuelle et avoir un fils avec lui.
En théorie, tuvo ese niño, pero el niño murió.
En théorie, elle a eu cet enfant, mais cet enfant est décédé. Le plus curieux, c'est que les gens avec lesquels elle était allée faire cette cérémonie dans le désert, ils s'appelaient les enfants.
Es casi el mismo lugar donde muchos años después
exactement au même endroit où des années après Charles Manson allait emmener toute sa famille. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Ça m'a paru une idée totalement folle qu'une femme pense à avoir une relation sexuelle avec un fantôme. Et franchement, Marjorie Cameron m'obsédait, et son histoire également. Et donc, j'ai écrit cette nouvelle qui s'appelle Julie, qui s'inspire dans cette femme. Évidemment, la nouvelle n'a rien à voir avec ce que je viens de raconter, si ce n'est la relation sexuelle avec un fantôme. Et voilà, donc c'est un peu le côté tordu de mes récits.
Mais alors justement, cette nouvelle qui est merveilleuse et terrible en même temps, à la fin, le doute subsiste, on ne sait pas si cette Julie a vraiment des relations avec des fantômes ou si elle est schizophrène, puisque ses parents la forcent à prendre un traitement pour la schizophrénie. Est-ce que vous vous accommodez facilement du doute quand vous écrivez?
A mí me parece fundamental en el cuento fantástico.
Alors, ça me paraît absolument fondamental dans les nouvelles fantastiques qu'il n'y ait pas de certitude.
Parce que le fantastique pour moi
est un genre qui est tout à fait adéquat pour parler de la réalité. Au contraire de ce que pense la majeure partie des gens et de ce que veut le sens commun. Pour moi, c'est le genre interprète mieux la réalité ou rend mieux la réalité que le réalisme.
Et
la réalité, c'est l'absence complète de certitude. Toute personne qui vit dans notre monde et dans notre réalité, c'est qu'il est absolument imprévisible, qu'on ne peut rien prévoir. Et ça ressemble plus au genre fantastique qu'à quoi que ce soit d'autre, qu'à la certitude.
la 20e heure, Eva Bester sur France Inter.
Hier à midi, le 33e président d'Argentine prête serment devant les députés et les sénateurs. Élu le 30 octobre dernier, Raúl Alfonsín mettait un terme à la dictature militaire qui tenait le pays depuis 1976. Ce jour a été déclaré jour chômé et chaque année, il sera commémoré. Dans les rues des villes argentines, c'est la fête de la liberté. Pour la première fois, la peur a disparu, les prisons ont été vidées des prisonniers d'opinion. Mais dans cette foule en liesse, dans les balles improvisées qui ont suivi les manifestations, ce sont les disparus, les absents qui tiennent encore le plus de place, même si c'est la joie qui l'emportait sur la tristesse, place de mai. Le slogan, crié par toute l'Amérique latine sans beaucoup de succès, prenait ici une véritable signification. El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Ces hommes le prouvent.
Journal du 11 décembre 1983 sur Antenne 2, présenté par Philippe Gassot. La dictature militaire qui a gouverné l'Argentine a commencé en 1976 et s'est arrêtée en 1983. Une peur latente régnait partout et vous le disiez à l'instant, Mariana Enríquez, la fiction et l'horreur et le doute permettent justement de mieux retranscrire le réel. Vous, vous avez été bercé par les deux puisque vous avez grandi avec des histoires et des superstitions de votre grand-mère maternelle dont vous raffoliez, et aussi avec ce fantôme de la dictature militaire. Vous dites d'ailleurs que le premier texte d'horreur que vous avez lu dans votre vie, c'est le rapport de la Commission des droits de l'homme qui a permis de juger les dictateurs responsables des atrocités.
Si, sin duda. Et non, le premier texte d'horreur fue.
Le premier texte d'horreur fue effectivement ce rapport de la commission qui a fait des enquêtes sur les enlèvements, les mises en prison et les disparitions, mais pas seulement. À ce moment-là, quand la dictature se termine, commence une période qui est en fait une période d'exposition totale des événements qui avaient été cachés. Le soir, on avait le procès qu'on écoutait à la radio et on entendait les témoignages des victimes qui racontaient des choses d'une cruauté pratiquement invraisemblable et des assauts sur les corps invraisemblables. Ce qui fait que pour moi, après ça, toute l'écriture sur le corps, ce dont on parlait au début, a un rapport avec ces écoutes d'émissions, enfin, de procès. J'avais 11 ans et cette lecture aussi de ce rapport. Et puis plus tard, toutes les revues et la télévision, ça racontait toujours où étaient les centres de détention. On cherchait toujours où étaient les jeunes qui avaient été incarcérés et qui n'étaient pas réapparus. Donc c'était aussi une impression de double. Il y avait des enfants qu'ils avaient retirés à leur famille ou des enfants qui étaient nés en prison et on remettait ces enfants à d'autres familles pour qu'ils s'occupent d'eux. Donc, les enfants étaient donc comme des enfants qui avaient été quelque part séquestrés également. Et toute cette histoire va continuer jusqu'aux années 90. Effectivement, un militaire en Espagne raconte qu'ils avaient jeté des personnes vivantes depuis des avions. Dans la mer. Et ça, on ne le savait pas, ni pendant la dictature, ni dans les années 80. Ça a pris 20 ans après la dictature avant d'être révélé. Donc, j'aime à dire que la dictature ne s'est pas achevée quand elle s'est terminée. Ce qui s'arrête, c'est un processus politique répressif. On a une transition, mais les effets de la dictature peut-être ne s'arrêteront-ils jamais.
Et d'ailleurs, on voit beaucoup de fantômes d'enfants dans votre œuvre.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?
Je vous ai amené ici pour enterrer le chat d'Hélène.
Papa, est-ce que George va bien ?
Pourquoi, Jude ?
J'ai mes raisons.
J'ai rêvé qu'une voiture l'avait écrasé et que Monsieur Crandall et toi l'aviez enterré dans le cimetière des animaux.
Qu'est-ce que nous avons fait cette nuit ?
Ce que nous avons fait doit rester secret.
Le grand maître de l'épouvante, le spécialiste de l'horreur.
Papa s'apprête à faire quelque chose de très mal.
Vous voulez l'ensevelir là-bas ? Ne me dites pas que ça ne vous a pas traversé l'esprit.
Le virtuose de l'effroi.
Reviens-moi, Cage. Reviens-nous.
Stephen King.
C'est l'adaptation du livre Cimetière de Stephen King par Marie Lambert en 1989. Marianne Henriquez, quand vous aviez 8 ou 9 ans, vous avez compris que la littérature pouvait provoquer des sensations physiques, parce que je crois que vous avez jeté loin de vous après avoir lu une phrase « cimetière ».
Si, si. Me lo regalaron a
oui, tout à fait.
Me
hein. On me l'a offert pour Noël, ce livre, hein, mon oncle. Parce qu'il y avait un chat sur la couverture.
Ah oui, sauf qu'il lui arrive des bricoles.
Si, si, bueno, pero el gato de la tapa era un gato normal.
Mais par contre, ouais, le chat de la couverture, c'était un chat tout à fait normal.
Et bueno, lo leí en, ça, me acuerdo, era un 25 de diciembre.
Je me souviens, hein, voilà, on était le 25 décembre, c'était le soir, tous les adultes étaient sous. Et évidemment, avec la chaleur, hein, bien sûr, puisqu'il fait très très chaud en Argentine au moment de Noël. Et je me souviens lire ça un soir d'été et avoir une peur physique qui ne m'était jamais arrivée auparavant, et encore moins avec un livre. Et il y a une scène, en fait, où le protagoniste, le héros,
hein,
déterre son fils ou sort son fils de la tombe, hein, c'est affreux. Il l'assoit à côté de lui dans la voiture,
ouais,
et il est évidemment dans un sac, hein, dans un suaire, et il se demande si le visage de l'enfant se tourne vers la fenêtre ou si il l'a mis à l'envers, en fait. Hein. Et ce qu'il dit, bon, je vais vérifier. Et il met la main, en fait, à l'intérieur de ce suaire pour vérifier s'il touche bien le nez ou la nuque de l'enfant. Et je me souviens de lire ça, et je me suis dit d'abord, cet homme est dingue. Deuxièmement, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me fais mal, hein, avec ça ? Et donc là, je l'ai jeté.
Me fui a tomar algo, una Coca-Cola.
Je suis allée boire quelque chose, un Coca-Cola, sans doute.
Necesito terminar este libro.
Et je me suis dit, il faut que je finisse ce livre parce que c'est la sensation, le mieux qui me soit jamais arrivé, c'est ça, c'est cette sensation.
Et je crois que sin ese momento y sin ese libro,
et je crois que sans ce moment, sans ce livre-là, j'aurais jamais rien écrit, en tout cas, pas des livres de terreur ou d'épouvante. Hein. Ça a vraiment été une révélation.
Vous avez adoré très tôt le romantisme et le gothique, les sœurs Brontë, Frankenstein, Dracula, Baudelaire, Rimbaud, Nerval. Votre roman « Notre part de nuit », dont le titre est tiré d'un vers de la poétesse Emily Dickinson, moi, m'a un peu fait penser à quelque chose d'un peu lovecraftien pour cette entité qui est l'obscurité qu'on peut convoquer. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur de ce que vous écrivez ? Ou est-ce que écrire des choses horrifiques permet justement d'apprivoiser la peur cosmique qu'on a tous en nous?
Non, tengo nada de miedo cuando escribo.
Non, non, j'ai peur de. J'ai absolument pas peur quand j'écris.
Es un momento de absolu para mí, de absoluto poder.
C'est un moment, en fait, de pouvoir absolu, hein, comme si je pouvais tout contrôler. C'est un moment de contrôle, de plaisir total, hein, et d'imaginaire.
Et
c'est quelque chose que je trouve très satisfaisant, hein, d'écrire des histoires de terreur, parce que toutes les peurs que je peux avoir dans la vie en général, général ou si je lis de la fiction, c'est comme si tout d'un coup j'étais devenue une déesse qui dominait tout ça, non ? En toute puissance.
Les écrivains, d'une certaine façon, sont comme des magiciens. Et donc, je me demande si vous croyez à ce à quoi vous écrivez. Est-ce que vous croyez à la vie après la mort ? Est-ce que vous croyez aux fantômes ? Et est-ce que vous vous êtes déjà adonné à des activités occultes ou ésotériques ?
A ver, yo creo que a los demás, cuando me cuentan que les pasa, les pasa.
Alors, je crois que les autres, quand ils me racontent ce qui leur arrive, ça leur arrive vraiment ou ça leur est vraiment arrivé.
Moi, personnellement,
j'ai essayé tout ce que je pouvais faire pour avoir une expérience paranormale et je n'ai jamais réussi. J'ai joué avec l'alcool. J'ai visité des cimetières de manière fréquente, au moins une fois par mois, hein, et il ne s'est rien passé. J'ai lu des manuels de magie noire, hein, et je suis très savante là-dessus, mais il ne s'est rien passé. La chose la plus proche, c'est la lecture du tarot, hein, le tirage de cartes. Et le tarot me paraît quelque chose de merveilleux en termes de récit. Il y a un livre d'Italo Calvino qui est basé sur le tarot. Que j'aurais écrit, hein, mais que je ne peux plus écrire, puisqu'Italo Calvino l'a écrit. Mais je peux en faire un autre à un moment donné.
Et
c'est la seule chose où vraiment je peux dire j'ai senti en fait cette proximité avec le monde de l'irrationnel, de la magie, avec le monde de la connaissance qui n'est pas celui de la connaissance qu'on a là, et aussi avec le monde de l'écriture. Parce que avec le tarot, c'est quelque chose en fait qui mettre des mots en fait, hein, pour voilà, c'est comme une prière en fait, hein, aussi l'écriture en fait.
L'accès à l'inconscient aussi, par le tarot et par l'écriture.
Si.
Alors, pour les auditeurs,
oui, tout à fait.
Je précise que le magnifique livre d'Italo Calvino auquel vous faites référence a été publié par Franco Maria Ricci, éditeur qui a fait des choses sublimes et dont je vous laisse découvrir l'œuvre et s'appelle Le Château des Destins.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Dreams? While you're awake? Dead people like in graves and coffins?
Walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. They don't know they're dead.
How often do you see them?
Mariana Henriquez, dans votre recueil de nouvelles « Un lieu ensoleillé pour personnes sombres » paru aux éditions du Sous-sol, la première nouvelle s'intitule « Mes morts tristes » et c'est une femme, spirit, qui voit les fantômes, qui voit les morts et qui les console. Et alors, j'ai vu qu'il y avait un projet de série autour de cette nouvelle et d'autres de Pablo Larraín pour Netflix, donc félicitations. Plusieurs de vos nouvelles ont été adaptées en film. Et je voulais savoir, quelle est selon vous la responsabilité qu'on a par rapport aux morts, puisque votre héroïne se sent responsable de ces morts ?
Si. Si, se siente responsable porque... Los fantasmas son
Elles se sont responsables parce qu'en fait, les fantômes, c'est la mémoire, le souvenir.
La memoria, el trauma, la culpa.
La mémoire, le traumatisme, la culpabilité.
El fantasma es aquello que,
le fantôme,
que está en el pasado,
c'est ce qui est dans le passé, mais qui se manifeste au présent.
Que existe en el presente.
Qui existe au présent.
Et qui nous dit quelque chose.
Et qui nous dit quelque chose. Dans la nouvelle, les fantômes disent ce qui m'est arrivé est injuste. Et d'une certaine manière, ils demandent deux choses, qu'on se souvienne de ce qui leur est arrivé et que justice soit rendue. La justice est impossible parce que la justice ne peut être accordée ou rendue que lorsque les gens sont vivants, hein, seulement. Et la réconciliation peut se produire lorsque la personne est morte. C'est seulement, en fait, une consolation pour les vivants. Hein, quelque chose qui nous fait nous sentir mieux. Et je crois que le fantôme nous fait très peur, pas tellement parce que c'est l'esprit d'un mort ou un esprit mort, c'est aussi parce que c'est l'esprit d'un mort qui vient nous dire
que le consuelo, que l'ajuda, que
la consolation,
que l'affecto,
que
se tiene en vida, que cuando se terminó la vida,
l'affect, hein, c'est quelque chose qu'on ressent, ou l'affection, c'est quelque chose qu'on a que quand on est vivant. Les actes cruels qui ont été commis ne peuvent pas être réparés.
Entonces, siempre los fantasmas están enojados.
Et donc, bien sûr, hein, les fantômes toujours se plaignent et sont en colère.
Hein,
ils ont toute l'éternité pour leur ressentiment et il n'y a aucune raison pour qu'ils te laissent en paix.
Alors, il y a énormément de fantômes et d'apparitions dans vos nouvelles. Et je pense à la nouvelle « Les oiseaux de nuit » dans laquelle des femmes se transforment en oiseaux au croassement effrayant. Une nouvelle racontée par une morte en putréfaction. Il y a beaucoup de putréfaction dans vos nouvelles. Et alors, il y a une chose frappante, et vous le précisez d'ailleurs, Mariana Henriquez, c'est que tous les oiseaux sont des femmes qui ont reçu un châtiment. Et un jour, j'avais fait une émission sur les fantômes japonais et je m'étais rendu compte que la plupart des spectres étaient des femmes humiliés de leur vivant. Et vous, vous écrivez « Toutes les légendes d'hommes métamorphosés en animaux ont pour origine la compétition, presque toutes, alors que les femmes sont condamnées, point. » Donc en fait, il y a une injustice de traitement selon le sexe, même dans l'au-delà.
La métamorphose, en général, est différente entre hommes et...
Mais la métamorphose, en fait, en fantôme, est différente entre les hommes et les femmes.
En la mythologie que tomo en ese cuento, que es la mythologie.
Dans la mythologie que j'ai pris pour cette nouvelle, est la mythologie guarani. Et donc, le dieu est un homme et il décide de châtier les femmes, de les punir
pour transgressions mineures,
pour des petites transgressions,
con un castigo desproporcionado, que es la
avec un châtiment qui n'est pas proportionnel, c'est-à-dire qu'elles deviennent pour toujours des oiseaux.
En los hombres, y esto uno lo puede leer en la metamorfosis de Ovidio.
Ça, on peut le voir dans la métamorphose d'Ovide. C'est-à-dire que le destin de l'homme avec la métamorphose est plus agréable et plus héroïque, même si c'est une métamorphose qui est liée à un châtiment.
Et
je pense que simplement, il s'agit en fait du fait que discipliner les femmes est quelque chose de plus important. Avec l'homme, c'est plutôt la destruction de l'autre qui est important. Donc, si je dois châtier un homme, je vais le détruire. Si je dois châtier une femme, si je dois punir une femme, je modifie son apparence physique, son corps.
Comme Dieu, je veux dire, je suis un Dieu,
voilà. C'est-à-dire, comme un Dieu, je suis un Dieu qui prend cette décision de la métamorphose d'un corps, ce qui est très étrange pour moi.
Il y a d'ailleurs une nouvelle absolument magnifique dans votre recueil, dans lesquelles des femmes qui tiennent un dépôt-ventre récupèrent des vêtements de luxe à un homme étrange, et quand elles enfilent les vêtements, il se passe quelque chose d'ignoble que je laisse les lecteurs découvrir. Là, on parle de cadavres en putréfaction, on parle de monstres, on parle d'apparitions, on parle de torture. Avez-vous en vous quelque chose de mièvre à l'opposé de tout ce qu'on vient d'évoquer?
Me gusta mucho el tennis.
Mais c'est pas mièvre le tennis.
No, es yo, el tenis.
J'aime beaucoup le tennis, mais non,
bueno,
le tennis
pero
italien.
No, no es siniestro, no es oscuro, es bajo
oui,
el sol.
Oui, mais c'est pas sinistre, c'est pas obscur, c'est, ça se fait sous le soleil, ce sont des corps sportifs.
Un ruban rose.
No, en général, no. A ver,
non, en général, non.
Si lo tengo que pensar tanto, es porque no.
Alors, ah. S'il faut que je réfléchisse tant, c'est que non, en fait, je dois rien avoir de mièvre.
Fires continued through the night. The kid with a bad face appeared at the window and disappeared into the headlights. I was halfway to the Pacific coast. I'd left you in your longing, in your yearning like a ghost. There's little room for wonder now, and little room for wildness too. We crawl into our wounds. I'm nearly all the way to Malibu. I'm gonna buy me a house up in the hills, with a tear-shaped pool and a gun that kills. 'Cause they say there is a cougar that roams these parts, with a terrible engine of wrath for a heart. That she is wise and rare and full of all kinds of harm, and stalks the perimeter all day long. But at night lays trembling in my arms. And I'm just waiting now, my time to come. And I'm just waiting now.
Mariana Henriquez, pour écrire, vous écoutez de la musique, pour vous rapprocher des émotions dont vous avez besoin. D'ailleurs, à la fin du recueil Un lieu ensoleillé pour personnes sombres, on peut voir tous les albums que vous avez écoutés. Et dedans figure le morceau que vous avez choisi pour l'émission Hollywood, de Nick Cave and the Bad Seeds. Et Nick Cave, pour vous, c'est la claustrophobie, l'obsession et le sexe destructeur.
Si, Nick Cave tiene bastantes faces, non?
Oui, Nick Cave, il a plusieurs aspects, plusieurs phases.
Esta fase es menos violenta y más obsesionada con la muerte.
Cette phase-là est moins violente, moins obsédée par la mort, mais moins violente. Hein. Il est toujours obsédé par la mort, mais pendant très longtemps, son obsession pour la mort a été une obsession violente et masculine, en fait. Penser la masculinité comme quelque chose de destructeur et de violent, hein, quelque chose qui a à voir avec le diable, quelque chose qui me paraît fascinant, c'est-à-dire qu'un homme se pense
comme une force. Sí, como una fuerza del mal.
Comme une force du mal.
En los últimos tiempos, y creo que a partir de la muerte de sus hijos,
ces derniers temps, et je pense à partir de la mort de son fils, il pense à la mort comme quelque chose de mystique.
También muy oscuro. Pero con una narrativa
très obscure également, mais avec un récit plus fragmenté, en fait, poétique.
Hein.
Pas quelque chose qui a un fil comme ça, avec un début et une fin. C'est un artiste qui m'a accompagnée toute ma vie, et pour moi, cette nouvelle étape de son travail est beaucoup plus suggestive. Et dans cette chanson qu'on écoute, Hollywood, il y a un moment où il parle d'un félin qui se trouve sur les collines de Hollywood qui sont en flammes. Et pour moi, c'est une description tout à fait incroyable. Et j'ai fini par l'inclure dans une de mes nouvelles, en fait, hein, ce puma qui donc est dans les collines en flammes de Los Angeles comme un espèce de souvenirs de la jeunesse, de la solitude, voilà, un fantôme qui serait en quelque sorte voilà, une incarnation de la tristesse. Et je crois que c'est la signification de cette chanson.
Mariana Henriquez, vous étiez journaliste rock, vous avez consacré un ouvrage au groupe Suède, je le prononce à la française, et vous dites que c'est l'amour du rock qui vous a amené à la littérature, Nick Cave à William Faulkner et Flannery O'Connor, Patti Smith à Arthur Rimbaud, et là, on entend un autre de vos choix musicaux qui illustre parfaitement l'émission de ce soir, c'est Monstruo de Mueran Humanos.
Si, Mueran Humanos es una banda argentina que.
Alors Mueran Humanos c'est une les humains meurent, hein, c'est un groupe argentin et je suis très amie des deux membres du groupe. C'est un groupe que j'ai beaucoup écouté quand j'écrivais ce livre de nouvelles.
Escucho música cuando escribo.
En général, en fait, j'écoute de la musique quand j'écris
rock.
Et particulièrement du rock.
Porque para a mí me lleva a ese estado.
Parce que ça me met dans un état, en fait, que d'autres écrivains atteignent en faisant d'autres choses, quelquefois en buvant, quelquefois en marchant. Hein, et moi, je me mets dans cet état en écoutant de la musique. Ça peut être des choses très cool, hein, comme Mueran Humanos, ou ça peut être des choses plus inattendues, en fait, pour quelqu'un qui me lit. Mais ce n'est pas, en fait, des groupes voilà, qui vont faire un fond sonore. C'est des choses qui me stimulent, en fait. Dans le cas de Mueran Humanos, c'est un groupe qui a un pessimisme, en fait, incroyable, qu'on peut danser, par contre. Mais du coup, ça me donne une espèce de sensation de fin du monde, une sensation de rituel morbide, en fait.
Et
voilà, je crois que effectivement, ça me paraît, cette idée de fin du monde, ça me paraît très inspirant pour ce que j'écris. Ouais.
Merci beaucoup, Mariana Henriquez.
Non, merci à toi.
Alors, on n'a pas eu le temps d'aborder ça, mais je voudrais préciser pour les auditeurs, et on le mettra sur le site internet, d'aller voir ce que vous vouliez leur faire découvrir, qui est le film La Ciénaga de Lucrecia Martel. Et je voulais aussi qu'on parle un peu de Silvina Ocampo, à laquelle vous avez consacré un ouvrage. Allez vous renseigner, c'est absolument passionnant. Je rappelle que votre recueil de nouvelles, Un lieu ensoleillé pour personnes sombres, est paru en français aux éditions du Sous-sol, dans une traduction d'Anne Plantagenet. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Tempero et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Ludovic Asselot, et merci à Pascal Fougère pour la traduction.